Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Les scandales sexuels à la une de l'actualité depuis quelques semaines, la crédibilité de l'Église catholique depuis près d'un an est touchée, des révélations sur des viols de religieuses, pédophilie, une pratique homosexuelle cachée chez certains de nos frères prêtres et jusqu'au Vatican. Je reçois pour intervenant toute la semaine frère Henri Donneau, dominicain, professeur de théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour frère Henri Donneau.
Bonjour Nathalie.
Merci d'avoir dit oui. Je rappelle que vous avez été aussi ce commissaire pontifical à la communauté des Béatitudes de 2010 à 2015, une communauté qui a traversé des épreuves autour de ces abus sexuels. Et aujourd'hui, vous êtes assistant pontifical. Premier entretien pour entrer dans cette série consacrée à notre Église catholique qui traverse une grande crise. Pourquoi ce grand silence de l'Église catholique, frère Henri Donneau ? Et merci.
Écoutez, ce grand silence, je crois qu'effectivement, il n'a que trop duré. Et il faut s'interroger pourquoi. Mais je tiens d'abord, en commençant, à dire ma joie très grande qu'enfin ce silence soit rompu. Et je crois qu'il faut vraiment rendre grâce au Seigneur, même si c'est venu à l'Église par des voies qu'elle n'avait pas prévues, même si elle est forcée, en quelque sorte, de rompre le silence. Je crois que c'est un don qui lui vient de Dieu. Nous sommes en période de carême. On sait ce que c'est que la valeur purificatrice d'une épreuve. Et je crois que vraiment l'Église, à l'heure actuelle, traverse un grand carême. Il faut qu'elle le fasse régulièrement pour faire le point sur ces abus, l'incompréhensible permanence pendant de si longues années de ces abus, de ce silence. Donc moi, je rends grâce vraiment à Dieu que la parole soit enfin libérée. Voilà, bon. À ce sujet. Alors, les raisons. Bon, alors, il y en a plusieurs, évidemment. Mais moi, je commencerai par la raison peut-être la plus douloureuse. S'il y avait silence, c'est d'abord, pas exclusivement, mais d'abord parce que les victimes elles-mêmes, en tout cas dans le cas des abus qui faisaient des victimes, hein, la pédophilie, les violences sexuelles sur des religieuses par des prêtres, dans ces cas-là, vraiment, il y a des victimes. Or, les victimes, on le découvre avec effroi, étaient incapables de parler. Elles étaient comme prisonnières de ce qu'elles avaient vécu, enfermées dans le silence, souvent dans la honte, dans une certaine culpabilité pour les religieuses.
Et pour la plupart,
c'est frappant,
cette culpabilité.
Pour la plupart, elles le disent, elles ont été complices, elles se sentent complices. Les enfants incapables de comprendre ce qui leur arrivait, leur psychologie durablement blessée, voire brisée pour très longtemps. Vous voyez. Donc les personnes ne pouvaient pas parler. Et souvenez-vous, il a fallu attendre le milieu des années 90 pour qu'on commence à écouter des victimes, à les croire et à prendre au sérieux les souffrances très grandes qui avaient été là. Jusque-là, et ce n'est pas que dans l'Église d'ailleurs, notre société était dans une ignorance plus ou moins délibérée de la pédophilie. J'ai moi-même, étant étudiant à Paris dans les années 80, je me rappelle lire en première page du Monde les éditoriaux de M. Gabriel Matzneff, ce journaliste, cet écrivain en vogue à l'époque, qui faisait l'apologie de la pédophilie en pleine page du Monde. Bon. Alors voilà le contexte dans lequel étaient donc les victimes, se sentaient incapables de parler. Voilà. Donc aujourd'hui, enfin, ça a commencé depuis une vingtaine d'années, elles peuvent parler, on peut les écouter, on peut entrer dans leur douleur. Et ça,
et on peut les croire.
On peut les croire. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et voilà, la parole, enfin, et d'ailleurs c'est le titre de cette association, hein, la parole est enfin libérée. Et je crois que pour l'Église, c'est une grande, grande chance d'être enfin capable d'écouter parce que les victimes peuvent enfin parler.
Et sortir au fond de cette Église catholique et de cette grande crise comme jamais, sortir d'une forme de déni,
voilà, alors,
et de tabou.
C'est ce que j'appellerais une des autres raisons de ce silence. Il faut bien dire ce qui est, c'est qu'il y avait dans l'Église, comme probablement dans beaucoup d'autres institutions, en tout cas l'Église, c'est particulièrement douloureux d'imaginer que ça se passait dans l'Église, il y avait véritablement une forme de déni, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à croire, on n'acceptait pas de croire possible. Le nombre de gens, y compris des parents d'enfants violentés par des prêtres, qui disaient, je l'ai vu dans le cas des Béatitudes, pour le frère pédophile Pierre-Étienne, les parents de vos enfants, non, tu mens, c'est pas possible que le frère ait fait ça. Les enfants étaient terrés. On ne voulait pas les croire. Ensuite, lorsqu'on passait à des révélations auprès de prêtres ou d'évêques, c'était la même chose. C'était un déni. Non, vous exagérez. On ne veut pas faire de bruit. Bon, cette culture du silence qui, malheureusement, est très répandue dans les milieux ecclésiastiques, qui est même une des plaies, il faut dire, ce qui est de la gouvernance ecclésiastique. Ça, c'est endémique depuis très longtemps. Mais je pense spécialement depuis les deux derniers siècles, une espèce de culture du silence. Il ne faut pas faire de bruit, pas de vagues. Alors, une crainte du scandale qui, en soi, est légitime, mais qui finit par couvrir des crimes. Et qui devient pour le coup, un vrai scandale, une occasion de scandale pour les fidèles qui ne comprennent pas comment leurs autorités n'ont pas su réagir. Et pour évoquer le cas des religieuses, hein, on sait très bien que dès les années 90, des évêques étaient alertés. Le père Marie-Dominique Philippe, qui a été pris à partie dans cette émission d'Arte, on avait, dès 95, des évêques avaient été alertés par des religieuses qui avaient été abusées. Les affaires ont été enterrées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu de suite. On a dû penser que les sœurs exagéraient. Voilà. Il y avait une culture du silence, voilà, qui est une vraie mal.
Culture du silence pour protéger l'institution Église.
Alors pour protéger l'institution,
protéger aussi le clergé.
Oui, pour protéger le clergé, pour protéger un petit peu l'institution, ne pas faire de vagues. Et puis parce que on pensait que la société n'est pas prête à écouter ça. Voilà, c'est cette culture un peu clanique.
Vous pensez, frère Henri Donneau, que la société est prête?
Aujourd'hui, non seulement elle est prête, mais elle exige de l'entendre. Oui. Mais bon, ceci dit, je crois que c'est un mal qui est endémique dans les institutions. Une institution n'aime pas voir les faiblesses de ses responsables, de ses, en l'occurrence ici des prêtres. Donc on a tendance facilement à les cacher. Surtout qu'il faut dire aussi...
Ou les déplacer.
Voilà. Et puis il y avait aussi, je pense, une certaine impréparation. Pour ça qu'il ne s'agit pas non plus d'un plan d'accusé. Il y avait une impréparation. Personne n'était préparé à gérer des fléaux d'une telle ampleur. Il y a aussi le fait, je pense, que les responsables de l'Église n'étaient pas vraiment en mesure de comprendre la gravité du point de vue des victimes. Parce qu'il y avait une culture dans l'Église depuis très longtemps. On sait depuis toujours que la pédophilie est un péché très grave. Alors même si les médias, eux, faisaient l'apologie de la pédophilie dans les années 70, dans l'Église, on a toujours su que c'était un péché grave. Mais on voyait la pédophilie uniquement du point de vue du péché commis par le prêtre. Alors, voilà, on prenait des sanctions en interne, déplacements, etc., mais on ne prenait pas en compte du tout les souffrances des victimes, parce qu'on n'était pas préparé, on ne savait pas, on n'imaginait pas, on ne voulait pas voir. Et, vous voyez, donc ça aussi, ça joue. On voyait la chose du point de vue du scandale qu'un prêtre ait fait mal. Mais être capable de percevoir
donc,
la gravité...
Au fond, éviter le scandale pour l'Église et rester dans une forme de déni dans l'accompagnement de la victime.
Oui, parce que souvent, je pense, honnêtement, on ne percevait pas la souffrance des victimes. On n'imaginait pas la profondeur de cette souffrance. Donc on dit, ben voilà, bon, la souffrance, il y a eu c'était un enfant, il ne s'est pas aperçu trop ce qui se passait. Par contre, le prêtre, c'est très grave, alors on va le changer de place, on va lui demander de plus s'occuper des enfants. Moi, j'ai vu plusieurs dossiers comme ça, y compris des années 1950, hein, dans des religieux qui commettaient des actes pédophiles. On les déplaçait, on leur interdisait de s'occuper des enfants, mais on leur prenait une sanction canonique de quelques années. Voilà, ça n'allait pas plus loin. Mais on ne se souciait quasiment jamais d'aller voir les ravages du côté des victimes. On ne cherchait même pas à savoir qui avait été les victimes. Vous voyez, donc il y avait... une impréparation. Bon, je pense que l'Église n'est pas la seule dans ce cas-là. Dans la société, très peu de gens étaient préparés à percevoir. Il a fallu tout le grand travail de mise à plat depuis les années 90, où on peut comprendre en écoutant. Moi, comme commissaire pontifical de béatitude, j'ai dû écouter les victimes du frère Pierre-Étienne qui a été condamné en 2012, et j'ai pu percevoir.
Rappeler en deux minutes un petit peu
un ancien faits. Frère de béatitude qui a été condamné à Rodez par le tribunal correctionnel de Rodez pour des dizaines d'actes de pédophilie sur des enfants. Et j'ai eu à rentrer en contact avec les victimes. Et ça a été une expérience très, 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 très douloureuse pour moi, très, en même temps très, très forte, hein, de découvrir la profondeur des blessures, pour certaines inguérissables, et de devoir accompagner ça. Mais je pense que jusqu'aux années 90, dans l'Église, on n'était pas préparé du tout à ça. Alors, vous voyez, silence, parce qu'on ne voyait pas, on ne percevait pas l'ampleur du mal qui pouvait être commis dans le cas de la pédophilie, et pareil pour les religieuses abusées. Alors ça, de toute façon, ça paraissait encore plus inimaginable, donc on ne voulait pas l'admettre, et on cachait la chose, ça c'est certain.
Et l'homosexualité aujourd'hui qui se rajoute aussi à ces actes aussi de pédophilie, de viol de religieuses, est-ce qu'on imaginait aussi jusqu'au Vatican que certains de nos frères prêtres avaient ces tendances et ces pratiques homosexuelles?
Alors ça c'est quelque chose, c'est vrai que c'est un autre...
On en reparlera, c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet,
c'est
un abus. Mais le fait qu'il n'est pas dans l'ordre du crime du tout. Donc
c'est un peu pour annoncer un petit peu la couleur aussi de nos entretiens durant cette semaine. C'est que le début.
Alors je pense, dans l'Église, et il ne faut pas se le cacher, bien en dehors. Et pas plus tard que ce matin, je lisais dans la presse des victimes dans les milieux juifs ultra-orthodoxes de Tel Aviv. Enfin, la chape de plomb se lève, des dizaines d'anciens victimes disent qu'ils ont été abusés par des hommes. Et puis Michael Jackson, ce matin aussi, ayant abusé des dizaines d'enfants. Vous voyez, donc je crois qu'on n'est qu'au début des révélations. Et on revient, il est heureux que la parole soit enfin libérée.
Parole libérée, puis au fond, une parole de transparence aussi de l'Église institution, de cette Église catholique qui va devoir aussi être en vérité et faire la vérité. Frère Henri Donneau, frère dominicain, l'intervenant cette semaine sur cette série et cette thématique que je vous ai proposée dans cette période de crise, l'Église catholique en crise. À demain, frère Donneau.
À demain, Nathalie. Thank you.